et Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Comment allez-vous? C'est l'heure de votre rendez-vous mensuel avec un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, toujours avec mon compagnon de route, Julien Clémenceau. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Dans cette actualité mondiale, sans cesse renouvelée, où l'énergie est une denrée rare et chère, comment se porte le continent africain, lui-même agité par les crises et les conflits? On en parle au jour le jour sur RFI et dans les colonnes de Jeune Afrique. Comment se portent les entreprises africaines? Comment évolue le climat des affaires et comment évoluent les finances des États? Quels sont les risques pour les investisseurs? Tout cela, c'est le cœur de métier de notre invité que j'accueille sans plus tarder, Stanislas Zézé. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être venu dans nos studios en provenance d'Abidjan, où vous étiez hier encore. Vous multipliez en ce moment les déplacements dernièrement en République démocratique du Congo ou au Cameroun. Stanislas Zézé, président de Bloomfield Investment Corporation. C'est une agence d'évaluation du risque de crédit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le Moody's ou le Fitch africain en quelque sorte, et vous faites la promotion d'un livre autobiographique intitulé « L'homme aux chaussettes rouges » que vous portez effectivement au quotidien, on a pu le constater tout à l'heure. Et bien justement, quelques repères sur votre chemin de vie avec Julien.
Stanislas Zézé, vous le revendiquez et c'est vrai, vous êtes un pionnier. Quand vous lancez Bloomfield Investment Corporation en 2007, il n'y a pas d'agence de notation financière locale en Afrique francophone. Cette activité qui consiste à évaluer la capacité d'une entreprise ou d'un État à rembourser ses dettes est même très peu développée sur le continent. Vous, le fils de militaire ivoirien, cinquième d'une fratrie de 10 enfants qui avait fait vos études en France, puis à partir du début des années 90 aux États-Unis à l'Université du Michigan, vous y voyez la possibilité pour l'Afrique de mieux financer son développement. Après avoir rêvé d'être avocat d'affaires, Stanislas Zézé, vous avez finalement opté pour la finance, pensant pouvoir agir avec davantage de force pour le continent. Mais vos passages à la Banque mondiale à Washington et à la BAD, une fois de retour à Abidjan, ne vous ont pas convaincu. Vous y avez observé une Afrique soumise à des règles qui ne sont pas les siennes, et c'est à cette époque que vous avez eu l'idée de faire vos évaluations en monnaie locale et non en dollars, comme c'est le plus souvent le cas, avec l'intuition que cette approche pourrait aider à dynamiser les marchés africains de capitaux. Est-ce que votre travail aide et permet effectivement à vos clients de mieux se financer et aux investisseurs d'identifier de nouvelles opportunités?
Absolument. Déjà, mon travail permet d'établir la crédibilité des États et des entreprises dans leur propre monnaie. Parce qu'en réalité, vous voyez, évaluer une entreprise ou un pays en dollars, oui, c'est une bonne chose quand c'est l'emprunt en dollars. Mais ce qui établit la qualité intrinsèque de crédit d'une entité donnée, c'est dans sa propre monnaie, la monnaie dans laquelle est évaluée sa richesse. C'est-à-dire que vous pouvez être pauvre en dollars et très riche en CFA. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de pauvre? Non. Et donc, ça permet d'ajuster ce biais qui était celui des agences internationales. Ceci dit, l'idée, ce n'est pas d'arrêter la notation en monnaie, en devises étrangères, mais
d'avoir
les
deux. Oui, parce que ces entreprises, elles ont effectivement des fournisseurs ou des clients, et elles commercent avec les devises internationales.
Absolument, sauf que la perception qu'on a de ces pays et de ces clients, quand ils ont une seule notation en devise étrangère, on a l'impression que cette devise, cette notation détermine leur crédibilité, ce qui n'est pas le cas.
N'allons pas trop loin. Stanislas Zézé, certains vous surnomment le loup de la finance africaine. Est-ce que ça vous convient?
Écoutez, peut-être, ouais, parce que je suis quelqu'un qui apparaît très froid et très distant. Et oui, ça peut m'aller. Sauf que si on considère qu'un loup, c'est quelqu'un qui est très déterminé.
Et quelqu'un qui a des dents longues.
Qui a des dents longues, mais qui n'est pas nécessairement quelqu'un d'avide. C'est-à-dire que vous avez les dents longues parce que vous voulez faire changer les choses, parce que vous voulez faire avancer les choses, mais vous n'êtes pas dans une logique d'ambition démesurée.
Stanislas Zézé. On va aborder bien d'autres sujets, les coups d'État en Afrique, les mouvements bancaires, la crise énergétique, climatique, le financement des petites entreprises, d'autres questions peut-être plus personnelles, émissions que vous retrouverez en vidéo et en intégralité sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique, sur nos sites internet, sur nos comptes Twitter et Facebook, où vous pourrez partager et commenter les propos de notre grand invité de l'économie, Stanislas Zézé, le loup de la finance africaine ou l'homme aux chaussettes rouges, c'est le nom de son ouvrage. C'est parti. Et partons naturellement de l'actualité la plus chaude, la plus récente. Depuis quelques jours, le Burkina Faso a un nouveau président à sa tête, un militaire en la personne du capitaine Traoré, qui a contraint le putschiste du mois de janvier, le colonel Damiba, à démissionner. Qu'est-ce que vous inspire ces coups d'État qui se répètent en Afrique de l'Ouest? Vous qui dites souvent que l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même pour se développer, compter sur sa jeunesse, est-ce que ces militaires ne tirent pas leur pays vers le bas?
Donc je crois qu'il faut, voir ça différemment. Évidemment, un coup d'État, il est condamnable. Ce n'est pas une meilleure façon de transférer le pouvoir. Ceci dit, ça démontre bien qu'il y a une crise de modèle politique. Il est peut-être temps que les leaders africains s'asseyent et repensent leur modèle politique. Peut-être que le modèle politique qu'ils ont décidé de mettre en place ne fonctionne plus. De toute évidence, il ne fonctionne plus.
Quand vous dites modèle politique, c'est quoi? C'est-à-dire l'organisation de la gouvernance
politique. Est-ce que c'est une concentration de pouvoir? Est-ce que c'est une séparation de pouvoir? Est-ce que c'est un équilibre de pouvoir? Évidemment, la majorité des pays africains ont ce modèle politique qui concentre le pouvoir. Mmh. En réalité, ça apparaît comme des systèmes démocratiques sur papier, mais en réalité, c'est des concentrations de pouvoir. Le désavantage de ces concentrations de pouvoir, c'est que ça crée beaucoup de frustration. Parce que le pouvoir, il n'est pas partagé, il est concentré. Mmh. Donc à un moment donné, vous avez d'autres gens aussi qui font de la politique.
Donc le bon modèle, ce sont les États-Unis, par exemple, où le président a certes du pouvoir, mais pas tant que ça. Beaucoup de lobbies, beaucoup de contre-pouvoirs.
Le modèle américain est un modèle excellent pour les États-Unis. Est-ce que ce modèle sera nécessairement adéquat dans d'autres pays? Je ne sais pas. Mais par contre, le partage de pouvoir, à mon sens, marcherait partout. Maintenant, c'est de voir quel type de partage de pouvoir les pays africains veulent installer.
Est-ce que vous observez sur le continent un pays qui a déjà franchi un palier et a adopté un modèle de ce type ou est en voie de l'adopter?
Vous prenez un pays comme le Botswana qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, je pense que les pays anglophones sont peut-être ont compris l'idée d'équilibrer les pouvoirs. Et non seulement équilibrer les pouvoirs, mais avoir des institutions qui soient fortes. Mmh. Généralement, en Afrique, vous avez des leaders et des présidents qui sont très forts et des institutions qui sont plutôt fragiles. À mon avis, il faut peut-être repenser cette approche et avoir des institutions fortes, ce qui permettrait systématiquement d'équilibrer le pouvoir. Si vous avez un système judiciaire qui est très fort, des institutions très fortes, un système législatif très fort, des institutions très fortes et exécutif également, systématiquement, il s'équilibre, quel que soit qui vient être le président ou le patron de l'Assemblée.
Revenons à ces pays instables avec vous, Julien.
Votre agence de notation travaille notamment avec des acteurs bancaires au Mali et au Burkina. Dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs que vous côtoyez dans ces pays?
Vous savez, ce que les pays africains ont commencé à comprendre et à commencer à faire, c'est le secteur privé a commencé à se démarquer du secteur public. Donc en réalité, l'impact politique sur le secteur public a tendance à diminuer. Donc les coups d'État et les coups de force et les crises politiques, généralement, finalement, impactent très peu, sauf s'il y a une rupture. Mmh. Et la rupture, ce serait une cessation d'activité, parce que justement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir.
Eh bien justement, pour donner de l'eau à votre moulin sur cette problématique de l'instabilité politique et du climat des affaires, nous voudrions vous faire réagir à ces propos tenus par Abdou Diop, membre du board de Mazar pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Mazar, c'est un cabinet d'audit, de conseil et de services aux entreprises.
Ce qu'il faut retenir des coups d'État ces derniers temps en Afrique, c'est que d'abord, c'est des coups d'État qui se répètent dans des pays qui ont un historique de coups d'État. Donc ça, c'est déjà un élément à mettre de côté. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les coups d'État se font de manière chirurgicale. Et donc, le lendemain, c'est business as usual. Donc, en soi, le coup d'État n'est pas une menace pour le business, même si ça crée un sentiment d'instabilité. Par contre, Ce qui est pénalisant, c'est toutes ces panoplies de sanctions qui sont prises à l'encontre des pouvoirs en place, par la CEDEAO notamment lorsque ça concerne l'Afrique de l'Ouest, et ces batteries de sanctions qui, elles, pénalisent l'environnement des affaires, parce qu'effectivement, quand vous fermez les frontières ou quand la Banque centrale décide de ne plus assurer des transactions, ben forcément, ça crée une vraie problématique pour l'environnement des affaires et pour les entreprises qui ont investi dans ces pays.
Abdou Diop du cabinet Mazars au Maroc, rencontré lors d'Ambition Africa, c'était cette semaine au ministère de l'économie à Paris. Julien.
Dans ce discours, on voit bien que l'élément perturbateur, c'est presque la sanction de la CEDEAO. Vous partagez ce point de vue ?
Alors, je suis d'accord avec Abdou, que je connais très bien d'ailleurs, que je respecte beaucoup. Je crois qu'il a mis la main sur un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coups d'État ne perturbent pas nécessairement le business et ne mettent pas en danger les investissements des étrangers. Mais évidemment, ça perturbe le coût politique du pays. Pour ce qui concerne la CEDEAO, il a raison, parce que la CEDEAO ne prend pas le temps de comprendre pourquoi justement il y a ces coups d'État. Une sanction, c'est bien, mais c'est sur du papier. C'est sur du papier. À la fin de la journée, le plus important, c'est régler des problèmes.
Donc vous estimez que les sanctions qui ont été prises, par exemple, contre le Mali, n'ont pas servi la situation, une amélioration de la situation?
Non, elles ont carrément desservi. La preuve, ça n'a pas empêché d'autres coups d'État. Donc, je veux dire, c'est inefficace. À un moment donné, il faut peut-être s'asseoir et se poser la question de pourquoi il y a les coups d'État. Quelle est la cause des problèmes? On ne cherche pas la cause des problèmes. Si on n'identifie pas la cause des problèmes, on aura des solutions qui ne sont pas adaptées.
Donc, il faut agir autrement que par des sanctions, mais agir comment? Les sanctions, c'est un message politique immédiat dès qu'il y a une situation compliquée.
Oui. On peut prendre des sanctions pour justement marquer le coup, pour dire qu'on n'accepte pas les coups d'État, mais pas des sanctions qui finalement pénalisent tout le monde, au lieu de pénaliser ceux-mêmes qui font les coups d'État. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les peuples qui sont sanctionnés. Ceux qui font les coups d'État, on les laisse dans une transition. Donc on ne les sanctionne pas, puisqu'il reste 36 mois, il reste 24 mois. Eux restent là, mais le pays est sanctionné justement par toutes ces mesures qui sont prises. Mais on ne cherche pas à comprendre les causes de cette problématique.
On ne tire pas sur la bonne cible, absolument. Dites-vous. Dans le cas du Mali, l'insécurité, la situation sécuritaire, est-ce que c'est ça plutôt qui handicape l'économie du pays? C'est le cas un peu aussi pour le Burkina?
Mais écoutez, c'est un élément évidemment perturbateur, quel que soit le pays. Mais je crois que la problématique de la sécurité dans n'importe quel pays est la responsabilité des leaders de ce pays-là. C'est une question d'organisation et cette responsabilité ne doit pas être la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et donc pour moi, les Maliens devraient réfléchir à comment s'organiser pour pouvoir faire face à cette situation de sécurité. Mais oui, l'insécurité est un élément perturbateur dans tous les pays pour l'économie.
Sur le plan économique et sur le plan financier, le Mali, justement, est revenu sur les marchés financiers. On ne s'y attendait pas forcément, mais il y avait des échéances à couvrir. Et ils ont rempli leurs objectifs. Est-ce que ça vous a surpris? Il y a eu plusieurs levées de fonds sur le marché ouest-africain.
Non, je pense qu'aujourd'hui, le marché a évolué. Les mentalités ont évolué. La perception du risque est circonstancielle et elle est contextuelle. On va regarder la capacité au moment où l'entité demande le crédit, quelle est sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières. Le passé, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut influencer sur le futur. On se met dans une logique perspective et nous regardons les éléments en présence et voir la capacité intrinsèque de faire face à ces obligations.
Là, on est quand même dans le cas d'un pays qui s'est isolé de partenaires anciens, qui se tourne vers de nouveaux partenaires russes, pour ne pas les nommer, dont on ne sait pas si, à l'avenir, ils seront fiables et aideront véritablement le pays. Donc l'incertitude, elle ne repose pas sur des éléments passés, elle repose sur une analyse du présent.
Oui, mais avoir des partenaires nouveaux ne crée pas nécessairement une incertitude. C'est parce qu'on regarde, ces partenaires nouveaux ne sont pas ceux-là qui vont rembourser la dette du Mali. Donc, je veux dire, ce que vous devez regarder, c'est la capacité intrinsèque du Mali à faire face à ses obligations financières. Les relations du Mali avec d'autres pays, enfin, nous sommes dans un jeu politique où les gens changent de partenaire tous les jours. Et ça, c'est leur prérogative. Ce que nous regardons, c'est la capacité intrinsèque. Est-ce que le Mali a les moyens maintenant, aura les moyens?
Et vous dites que le Mali ne va pas aussi mal qu'on le dit?
Écoutez, je ne sais pas qui dit que le Mali va mal. Enfin, quand il y avait les sanctions, évidemment, si vous ne pouvez pas faire de transactions, forcément, vous avez... Mais vous venez de le dire vous-même. Dès que les sanctions étaient levées, ils ont fait face à des obligations financières. Ça veut dire qu'ils ont les capacités de faire face à ces obligations financières, sauf s'ils sont sanctionnés.
Stanislas Zézé, que pensez-vous du sentiment anti-français, extrêmement fort, qui s'est développé ces dernières années en Afrique, particulièrement dans les pays du Sahel? Est-ce que Paris a perdu la bataille de l'opinion, y compris dans les milieux d'affaires d'ailleurs?
Alors honnêtement, je ne crois pas que ce soit un sentiment anti-français, parce que quand vous dites un sentiment anti-français, c'est si comme les gens détestaient les Français. Non, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique, ce qui est complètement différent des Français.
Telle qu'elle a été menée, voilà. Ou telle qu'elle est menée aujourd'hui?
Non, telle qu'elle continue à être menée malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la France a peut-être pas compris l'avantage historique et significatif qu'elle a en Afrique. Un avantage culturel, un avantage naturel et historique. Ceci dit, l'attitude doit changer. Les peuples changent, les environnements changent. Aujourd'hui, les jeunes sont des jeunes décomplexés. L'attitude que leurs parents et leurs grands-parents avaient vis-à-vis de la France, ce n'est plus la même attitude, sauf que l'attitude des politiciens français n'a pas changé. Et c'est là où il y a certainement un grincement dedans et où vous ressentez ça.
Ouais. Quand Emmanuel Macron prédisait un changement à Ouagadougou devant les étudiants, un changement d'attitude et un changement dans la relation entre la France et l'Afrique, pour vous, ce n'est absolument pas le cas?
Non, pour moi, ça n'a rien changé parce que, vous savez, tout est dans l'attitude. Vous savez, vous avez affaire à un continent où les gens sont très émotifs. Ce que ça veut dire que la façon de présenter les choses, façon d'expliquer les choses, a un impact significatif sur justement leur réactivité. Et de toute évidence, non, les mots n'étaient peut-être pas bien choisis. Il ne s'agit pas de dire, et après, faut le démontrer. Et je crois que la réaction de gens montre bien que c'est une réaction vis-à-vis d'une action qui n'a pas été faite ou qui a été mal faite.
On a parlé il y a quelques instants de la Russie qui s'implante, y compris d'un point de vue économique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans le contexte de la guerre en Ukraine? Est-ce que les pays africains et les milieux d'affaires, est-ce qu'ils vont devoir choisir leur camp entre les Occidentaux et les Russes?
Non, je crois qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent pas être mis dans cette position de choix. Ce sont des grands garçons et des grandes femmes indépendants. Et l'Afrique devait aujourd'hui plutôt profiter de tout ce qui rentre de cette mutation internationale et se poser une question qui est fondamentale. Quelle est la capacité à être autosuffisant, à être indépendant? Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est des grandes questions que les leaders africains devraient se poser et de ne pas s'aligner à gauche ou à droite et de dire aujourd'hui, quelle est la stratégie que nous mettons en place pour être indépendant, pour être autosuffisant, pour pas qu'on ait à nous demander qui ont choisi, qui ont choisi pas, non.
On voit quand même pas mal de drapeaux russes en ce moment dans certaines capitales.
Avis, franchement, que ce soit le drapeau russe ou le drapeau allemand ou le drapeau américain, non, il faut que ce soit leur propre drapeau qu'ils affichent. Et ça, ce serait peut-être la première bonne chose.
Est-ce que les dirigeants africains n'ont pas pris la bonne voie avec le projet de zone de libre-échange économique africaine, la ZLECAF? Ce projet, il peut véritablement révolutionner le commerce en Afrique. Il va être long à accoucher, mais il est déjà enclenché.
Non, je crois que c'est une excellente initiative en réalité. Maintenant, il y a des préalables qui doivent être remplis pour pouvoir faire de ZLECAF un succès. Déjà, les pays sont fragmentés, les régions sont fragmentées. Vous avez des marchés des capitaux qui sont fragmentés. Vous avez beaucoup de barrières, vous avez des visas, vous avez des monnaies qui ne sont pas convertibles en elles-mêmes. Comment vous faites des transactions entre vous si vos monnaies ne sont pas convertibles, la première chose? Donc, c'est-à-dire vous avez toutes ces restrictions qui doivent être levées afin de pouvoir faire de cette initiative que je trouve extraordinaire une réalité.
Avant d'aller vers l'évaluation du risque pays, qui est vraiment le cœur de votre métier, une question sur la Chine, à la croisée des chemins d'un point de vue intérieur et international. Est-ce que la Chine doit annuler la dette des pays africains?
Non, je ne crois pas que ce soit nécessairement quelque chose à souhaiter. Vous empruntez, vous remboursez, tout simplement. C'est une question de responsabilité. Je n'aimerais pas qu'on infantilise les Africains quant à dire qu'il faut annuler les dettes. Non, ils ont contracté ces dettes en bonne et due forme, en toute conscience, et il s'agit de rembourser. Mais non, il faut qu'ils s'organisent pour rembourser. Moi, je ne suis pas un partisan de l'annulation de la dette. Je trouve que c'est créer une très mauvaise réputation pour les pays
même
africains.
Même si c'est à l'initiative des Chinois.
Quelle que soit l'initiative. Si la Chine décide de pardonner une dette sans contrepartie, parce que, vous savez, il ne faut pas se leurrer, rien n'est gratuit. Si elle décide elle-même d'annuler des dettes sans contrepartie, ouais, pourquoi pas. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'initiative des pays africains qui ont pris l'engagement de rembourser.
Donc la crainte, c'est de voir les taux remonter pour les pays africains, le coût de l'argent augmenter pour les pays africains, c'est ça?
Écoutez, si vous démontrez que vous n'êtes pas capable de faire face à vos obligations financières, oui, la prochaine fois, l'argent coûtera beaucoup plus cher. Mmh. C'est une question de réputation. Vous savez, la crédibilité, c'est l'élément fondamental dans ce processus de dette.
Rien n'est gratuit, en effet.
Rien n'est gratuit.
Votre agence Bloomfield a co-organisé, il y a quelques jours à Kinshasa, une conférence sur le risque pays avec le ministère des Finances. Il y a été beaucoup question d'un rapport que vous avez remis, c'était au mois de juin, aux autorités congolaises, et qui attribue une note de 5,1 au pays. Nous avons joint à ce propos le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, pour recueillir sa réaction.
Je l'accueille avec satisfaction, pas seulement par rapport au résultat qui a été donné, mais surtout parce qu'il s'agit d'un premier exercice qui permet à toutes les parties prenantes de davantage comprendre la vision et l'utilité de ce type d'exercice. Je pense globalement que l'analyse a été objective. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucune complaisance de la part de l'agence de notation. Ils ont été dans leur rôle, ils ont révélé ce qu'ils ont perçu de leur analyse. Et j'ai eu l'occasion d'y répondre en donnant davantage d'éclairage, en complétant certains éléments, parce qu'il s'agit d'un pays que nous prétendons connaître mieux qu'une agence de notation, mais nous avions voulu partir de la perception d'une agence de notation pour une sorte d'introspection nécessaire pour progresser.
Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que la notion de risque pays doit être davantage développée en Afrique comme un moyen pour attirer les investissements?
De mon point de vue, la notion de risque pays n'est pas suffisamment développée en Afrique. Il en est de même d'ailleurs des exercices de notation et de classement. Et pourtant, il s'agit d'un outil approprié pour stimuler, pour créer l'émulation. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de procéder à la notation de quelques grandes entreprises dans notre pays afin de leur permettre de mieux évaluer les critères qui les rendront beaucoup plus bancables, beaucoup plus capables de mobiliser des ressources et des partenariats pour leur développement.
Stanislas Zézé, pourquoi la RDC a-t-elle souhaité être notée par Bloomfield? C'est une communication qui vient contrebalancer les difficultés du pays souvent mises en avant?
Alors, c'est deux exercices différents, je voulais clarifier. Il y a la notation financière qui a été rendue en juin, où le pays a eu 3B, donc risque modéré. Et là, c'est la notation, si vous voulez, du risque d'investissement, qui est quelque chose de complètement différent, qui est sur une échelle de 10, vous avez 5,1 qui correspond également à risque modéré.
Bien, mais pas mieux faire.
Voilà, je crois que ce que les Congolais ont compris, et ce que beaucoup de pays africains ont commencé à comprendre, qu'il est extrêmement important de monter patte blanche. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que la perception que vous avez de vous-même n'est pas forcément celle-là qui va déterminer la volonté des investisseurs d'investir dans votre pays ou de vous prêter de l'argent. Généralement, ce qui se passait, c'est que les pays mettaient en avant le profil du pays, donc le potentiel du pays. Et j'explique toujours au pays que le potentiel n'est pas forcément une opportunité. Et il faut justement transformer ce potentiel en opportunité. Donc ce type d'exercice permet aux investisseurs d'avoir une visibilité sur non seulement la crédibilité du pays, mais les forces, les faiblesses et les opportunités. Et à la fin de la journée, c'est l'investisseur qui décide. Les investisseurs ne recherchent pas nécessairement des éléments positifs. Ils veulent toute l'information. Ils veulent la bonne information. Et c'est ce que nous, on essaie de donner.
Bloomfield a une approche, on l'a dit, une évaluation en monnaie locale et une approche locale et au plus près des réalités africaines. Est-ce que quand vous évaluez, ça revient systématiquement à donner une meilleure note que l'aurait fait une agence comme Fitch ou comme Moody's? On a le sentiment que vous êtes des fois un peu l'agence des bonnes nouvelles pour les pays.
Non, je vous explique. C'est-à-dire que quand vous notez en devises étrangères, vous évaluez la capacité de rembourser en dollars. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez mettre l'accent sur les réserves de devises et la politique de transfert des devises. Quand vous avez des pays qui sont des pays d'économie de rente, sont des pays qui vendent leurs matières premières, collectent des devises et utilisent ces mêmes devises pour importer des produits finis. Donc des réserves de devises qui sont faibles. Donc ils sont condamnés à avoir de mauvaises notes, quelle que soit la performance de l'économie. Alors que c'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est pauvre en dollars qu'on est pauvre. Nous, ce que nous disons, nous ne remettons pas en cause les standards d'évaluation, nous ne baissons pas les standards d'évaluation. L'approche, elle est différente, elle est contextuelle. On fait votre notation financière dans votre propre monnaie, on regarde la performance de votre économie et on sort une note. Et la note en monnaie locale ne prend pas en considération les risques de transfert des devises, parce qu'il n'y a pas de risque de transfert des devises, ne prend pas en compte le plafond souverain parce que ça n'existe pas. Donc, c'est juste une question d'approche.
Donc, elle s'adresse d'abord à des investisseurs africains ?
Non, elle s'adresse à des investisseurs locaux, régionaux et internationaux. Quand vous empruntez en dollars, vous devez rembourser en dollars. Donc, on va regarder votre note en dollars. Mais celui qui regarde votre note en dollars, il veut savoir si déjà vous êtes quelqu'un de crédible, avant même de parler de votre capacité à rembourser en dollars. Et donc, quand il voit la note en monnaie locale, qui n'est pas forcément toujours bonne, hein, il y a des pays qui ont des mauvaises notes, il y a des entreprises qui ont des mauvaises notes, c'est surtout que la note est toujours supérieure à l'équivalent en monnaie ou en devise étrangère, parce qu'il n'y a pas ces deux contraintes-là.
Donc, quand vous mettez une meilleure note, on ne peut pas dire que vous êtes moins rigoureux que les agences internationales.
D'ailleurs, nous sommes plus rigoureux.
Nous sommes plus rigoureux,
mais nous sommes justes.
Et pourquoi vous êtes plus rigoureux ?
Mais nous sommes plus rigoureux parce que nous sommes plus proches de la réalité et nous comprenons le contexte et nous évaluons dans le contexte. Nous savons interpréter les paramètres qualitatifs, par exemple, dans leur contexte culturel, économique et social, ce qui n'est pas forcément le cas de celui qui est assis à New York.
Vous êtes prêt quand même à vous fâcher avec un dirigeant africain, à être sans complaisance ?
Non, on n'est pas là pour se fâcher, mais on est sans complaisance. Hein. Le ministre vous a dit, le rapport, il est très clair. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Quand c'est très mauvais, on dit c'est très mauvais. On n'est vraiment pas dans la complaisance,
donc,
ça c'est clair.
Donc cette proximité avec les économies africaines, et là en l'occurrence avec les pays, elle ne remet pas en cause votre indépendance ?
Non, nous sommes totalement indépendants. Ça fait 15 ans qu'on existe. Vous savez, quand vous n'êtes pas indépendant, quand vous êtes compromis dans une évaluation comme celle-là, ça se sait tout de suite. Vous savez, si je dis Bruno Faure court plus vite que Usain Bolt...
Mais c'est le cas.
Je peux l'écrire, je peux le mettre sur papier. Il se réveille à 2h du matin, il boit 10 œufs, il court comme une panthère.
Non, c'est Julien Clémenceau, le sportif entre nous deux.
Donc, tant qu'on ne l'a pas vu... sur le terrain, on ne saura pas, mais quand il sera sur le terrain, on verra s'il court vraiment plus vite.
On va reparler de sport tout à l'heure. Est-ce que l'Afrique, Stanislas Zézé, est-ce que l'Afrique a besoin d'une agence panafricaine, comme le souhaite par exemple Macky Sall, pour gagner en souveraineté, pour développer ses marchés financiers ? Une notation 100% africaine, panafricaine.
Il y a déjà des notations. Toutes les agences sont panafricaines, tant que vous notez dans plusieurs pays. Maintenant, il s'agit justement de peut-être créer un cadre qui permettrait à ces agences-là de bien opérer et d'avoir une certaine capacité de couvrir tout le continent. Mais il n'y a pas besoin de créer une agence publique. L'Europe a essayé, a compris que ce n'est pas possible d'avoir une agence publique. Une agence publique ne peut pas être indépendante. Donc forcément, l'agence doit être privée. Et il y en a déjà sur le continent. Il s'agit de renforcer leur capacité à couvrir tout le continent plus tôt.
Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
Est-ce que la période du Covid, où les économies africaines ont vu plus qu'ailleurs dans le monde leurs notes être dégradées, a joué un rôle dans la prise de conscience des dirigeants africains de l'importance d'une note proche des réalités locales ?
C'est curieux parce que les pays qui ont été les plus résilients dans cette crise sont les pays africains. Paradoxalement, ce sont les pays qui sont dégradés par les agences internationales. Moi, ça m'amuse et ça me surprend. Non, je crois que les pays africains ont pris conscience de leur faiblesse en termes de dépendance vis-à-vis de cette mondialisation qui finalement... où ils avaient tous délégué leur capacité.
Il n'y a pas que. Voilà. Hein, on voit les Européens en ce moment, on voit le Royaume-Uni, par exemple, qui est dégradé par les agences de notation.
Oui, sauf que les Occidentaux ont cette capacité de maîtriser le marché domestique. Les pays africains ont délégué la capacité de transformer les économies à cette espèce de mondialisation qui est en réalité quelque chose de très factice finalement. On s'est rendu bien compte. Une fois qu'on ferme les frontières, vous retrouvez chez vous avec rien du tout. Vous êtes producteur, grand producteur de DVA, mais vous ne savez pas fabriquer des pneus.
Le défi de l'Afrique, c'est toujours l'industrialisation.
C'est l'industrie, c'est la transformation, donc si on appelle ça l'industrialisation, oui, qui permettra à l'Afrique d'être indépendante. Tant que l'Afrique restera dans cette logique de pays rentier, ils auront toujours du mal à être indépendants.
Avant de parler des grands enjeux climatiques qui concernent aussi, et peut-être même en premier lieu, l'Afrique, deux ou trois questions, Julien, concernant le secteur bancaire, le secteur financier.
Oui, il y a une actualité très forte en Afrique de l'Ouest et dans votre pays, en Côte d'Ivoire, puisque les pouvoirs publics ivoiriens, au travers de la BNI, de la Banque Nationale d'Investissement et d'autres entités publiques, ont décidé de racheter la BCC, la filiale de la BNP. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée que l'État investisse davantage d'argent dans le secteur bancaire ?
Écoutez, si je considère que l'État est dans cette logique d'avoir des entreprises ivoiriennes qui contrôlent l'économie domestique, oui, c'est une bonne chose, parce que ça devient un outil qui permettrait justement de financer ces entreprises locales qui ont besoin de financement et qui malheureusement, dans beaucoup de cas, ne rentrent pas forcément dans le schéma des banques étrangères qui, finalement, ne les financent pas. Donc, pour moi, si c'est ça l'objectif...
Est-ce que vous doutez de l'objectif ? L'objectif, ça pourrait être aussi de davantage financer les entreprises publiques ivoiriennes ?
Non, je ne doute de rien, parce que je ne sais pas l'objectif, on ne me l'a pas dit. Mais j'espère pour la Côte d'Ivoire que l'objectif, c'est d'avoir un outil puissant. La BNI est déjà un outil, mais avoir un outil comme celui-là est un outil très puissant qui permettrait justement de financer les entreprises locales et leur permettre d'avoir des tailles suffisamment importantes pour être compétitives vis-à-vis des autres compagnies régionales ou internationales. Donc, dans cette optique-là, oui, c'est un très beau... Si c'était pour faire juste du profit, à mon avis, je dirais que ce n'est pas le rôle de l'État.
Certaines banques internationales qui décident de quitter l'Afrique... Beaucoup de commentaires autour de la BNP, par exemple. Est-ce que vous le regrettez ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense que c'est un, comme on dit en anglais, un move stratégique. Hein. La BNP a déjà peut-être décidé de redéployer ses billes ailleurs. Non, on ne doit pas forcément toujours voir ça comme un problème particulier pour l'Afrique. Si la BNP se retirait des États-Unis, personne ne poserait des questions.
C'est le business.
Voilà, c'est le business. C'est la BNP, même Bolloré, enfin, tous ces gens décident de revoir leur stratégie, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème en Afrique, c'est pourquoi ils se retirent.
Stanislas Zézé, président de Bloomfield Investment Corporation et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, entretien à commenter sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook RFI Echo.
We are absolutely convinced that the DRC can have full economic development without threatening the blocs.
Vous avez peut-être reconnu la voix de John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. Il était à Kinshasa, en RDC, pour préparer la COP27 qui va se tenir à Sharm el-Sheikh, en Égypte, sur le sol africain. Sharm el-Sheikh, où la communauté internationale va tenter de s'entendre sur de nouvelles mesures pour limiter le changement climatique. John Kerry qui demandait là aux autorités congolaises de renoncer à des blocs pétroliers situés dans des zones sensibles, les forêts et les tourbières du bassin du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, Stanislas Zézé, vous intégrez cette dimension environnementale, ces efforts en faveur du climat chez les pays, dans vos rapports, dans vos évaluations ?
Oui, nous prenons en considération tous ces paramètres, mais évidemment, nous comprenons aussi que les pays africains sont dans une situation qui est assez particulière, où on leur demande de finalement pas vraiment se développer pour que les autres puissent continuer à polluer. Ça leur pose problème, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Nous, on n'a pas d'opinion personnelle là-dessus, mais si vous me demandez de commenter là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, oui, on est tous conscients qu'il faut absolument faire un effort climatique, mais on ne peut pas ignorer le fait que ces pays ont besoin des énergies fossiles
mais
pour se développer.
Vous regardez ça en termes de risque ?
Non, nous, on regarde en termes de risque, en termes de... Ce que nous regardons, le risque que nous regardons, c'est l'impact que l'industrialisation et le développement peut avoir, justement. Mais cet impact, nous essayons de le matérialiser en financement. C'est quel risque auquel s'expose ce pays en termes de poursuites judiciaires s'il y a un problème avec la santé des gens qui poursuivent, quel impact financier ça pourrait avoir ? Parce que rappelez-vous que notre objectif, c'est d'évaluer votre capacité à faire face à vos obligations financières. Donc, Les actions que vous posez, nous regardons quelles conséquences ça pourrait avoir financièrement pour vous.
Pour revenir à ce risque climatique et aux efforts qui sont demandés aux pays africains, selon vous, le continent doit bénéficier d'un traitement de faveur quant à l'utilisation des énergies fossiles ?
Non, ce n'est pas un traitement de faveur. Je veux dire, les Occidentaux n'ont pas demandé aux Africains s'ils devaient utiliser l'énergie fossile quand ils ont commencé à se développer. Non, ils ont pas
Mais dans un contexte où on va chercher mondialement à réduire leur utilisation, ça veut dire que l'Afrique va continuer pour un temps à utiliser des énergies fossiles afin de s'industrialiser.
L'Afrique pollue à 3%. Donc évidemment, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'Afrique qui pollue le monde. Non, il faut qu'on se rappelle ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité des Africains qui vont signer des contrats. Parce que pour moi, quand vous signez un engagement mondial, ben vous y accordez parce que vous avez signé. Et c'est peut-être de réfléchir avant de signer tous ces contrats tout azimut.
Exemple, Ouganda, la Chine et Total Energy.
Oui, je veux dire, dès l'instant où vous signez...
Et la Tanzanie d'ailleurs.
Voilà, dès l'instant où vous signez, vous vous engagez. La réflexion, elle se fait avant. Est-ce que j'ai vraiment envie de renoncer à toutes mes énergies fossiles pendant que j'ai besoin de ça pour me développer ? Si vous signez, que vous dites oui, mais après vous ne plaignez pas. Mais avant, vous dites non, écoutez, non, nous on pense qu'on peut travailler sur un mix énergétique pour pouvoir et respecter justement cette pollution à laquelle on ne contribue pas forcément à très haut niveau, mais en même temps, continuer à utiliser un certain nombre d'énergies fossiles pour se développer. Mais dès l'instant où vous prenez l'engagement, vous y tenez. Mais l'Afrique est obligée d'avoir un mix énergétique, parce que sinon, à l'éolienne et à tous les autres énergies renouvelables, ça va être compliqué de s'industrialiser, me semble-t-il.
Je reviens sur une autre partie de votre métier de notation. Ce sont les villes, les grandes villes comme Dakar ou le plateau à Abidjan que vous avez noté. C'est rare qu'elles soient notées, c'est rare qu'elles aillent sur les marchés. Qu'est-ce qui bloque ? Ce sont des blocages politiques, c'est la crainte pour un pouvoir central d'avoir une plateforme financièrement solide qui permettrait à un opposant d'aller à la conquête du pouvoir. Pourquoi elles ne sont pas plus présentes sur les marchés, ces grandes villes ?
Non, je pense qu'au début de la décentralisation, de la politique de décentralisation, je crois que les leaders politiques africains comprenaient ça plutôt comme de la déconcentration. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris l'utilité de la décentralisation. Donc, pendant la déconcentration, il y a eu une infantilisation des collectivités locales, où le gouvernement central devait tout faire pour les collectivités locales, jusqu'à même leur paiement. Mais aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer avec une seule capitale, avec une seule ville, ce n'est pas possible. Ça crée l'exode rural, ça crée toutes sortes de conséquences, de déséquilibres économiques.
Et une ville administrée souvent par l'État.
Oui, mais aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Vous voyez, quand on parle d'un pays développé, on parle d'un pays avec plusieurs pôles économiques, politiques. C'est ça qui fait un pays développé, parce que c'est l'équilibre. Et aujourd'hui...
Vous pensez à la Côte d'Ivoire, là ?
À la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons pensé, c'est... Nous pensons que permettre aux collectivités locales d'aller sur les marchés des capitaux est un avantage aussi pour le gouvernement central. Parce que quand vous avez une note d'investissement, par exemple dans l'UEMOA, vous levez des fonds sans la garantie de l'État. Vous savez que la garantie vient renchérir, si vous voulez, le stock de la dette de l'État. Donc si les collectivités locales sont désormais capables de lever sans la garantie de l'État et sans le soutien de l'État... Mais c'est du pain béni pour ces États-là. D'ailleurs, ça voudra dire que l'État va se concentrer sur les petites collectivités locales qui n'ont pas les moyens d'aller sur les marchés des capitaux et pouvoir bien les aider. Donc, au contraire, cette tendance devrait être encouragée par tous les pays africains.
Stanislas Zézé, il y a un peu moins d'un an, était assis là où vous êtes, une autre personnalité ivoirienne, Tidjane Thiam, qui nous disait toute l'importance que revêtent, selon lui, les PME pour les économies africaines, les petites et les moyennes entreprises. Je voudrais que l'on écoute une jeune chef d'entreprise, qui n'est d'ailleurs plus une inconnue, Tamara Mutotekema. Elle est gabonaise. Elle dirige Agridis dans le domaine de l'agroalimentaire. Comme son nom l'indique, de quoi les PME ont-elles besoin ?
Ce qui manque aux PME africaines aujourd'hui, premièrement, c'est la formation. Il y a de la compétence, il y a de l'expertise, mais il faut du renforcement de capacité. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a du réseautage. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'innovations en Afrique, énormément de jeunes qui inventent des choses, qui innovent, mais qui ne sont pas mis en relation avec les bonnes personnes. Et enfin, évidemment, le financement pour soutenir le développement de toutes ces solutions qui existent déjà.
Est-ce que les banques ont peur des jeunes en Afrique?
Alors, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que la jeunesse, c'est la fougue, la jeunesse, c'est le rêve. Et donc, ils se disent, est-ce que ce jeune, c'est de quoi il parle? Est-ce que ce jeune a les capacités d'emmener cette idée-là à devenir un champion national, à devenir une très, très grande entreprise dans 10, 15 ans? Et donc, les banques devraient être beaucoup moins dures avec les idées d'entreprise portées par les jeunes. Elles doivent miser sur l'expérience, elles doivent miser sur le potentiel. Aujourd'hui, c'est important de miser sur le potentiel pour pouvoir ensemble développer le continent.
La chef d'entreprise gabonaise Tamara Mutotekema, rencontrée également à Ambition Africa, cet événement à Bercy, dont RFI est partenaire. Julien.
Stanislas Zézé, partagez-vous, comme Tamara Mutotekema et Tidiane Thiam, le sentiment qu'on ne fait pas assez pour les PME?
Non, je pense qu'on ne le fait pas de la bonne façon. Vous savez, dans tous les pays, il y a des programmes très ambitieux pour les PME, mais ils ne sont peut-être pas bien ficelés. Il s'agit de faire évoluer l'écosystème des PME. Et comme elle a dit tout à l'heure, il s'agit de renforcer les capacités des PME. Tous les pays où vous entendez des programmes de PME, c'est surtout sur le financement des PME. On ne peut pas financer...
C'est important parce que souvent, elles manquent de garanties.
Oui, mais ça vient en deuxième lieu. On ne peut pas financer des gens qui ne sont pas capables d'absorber des fonds. Si vous êtes en train de financer à perte. Oui. Une PME n'a pas besoin de l'État pour aller chercher de l'argent. Non, il faut créer les conditions pour que ces PME arrivent.
Donc il faut des incubateurs, une agence de notation des PME. Non,
les incubateurs sont une chose, mais font un écosystème. Avoir des PME qui soient capables d'absorber des fonds, les développer, enfin utiliser ces fonds et se développer.
Donc il faut les sélectionner, il faut les noter, vous notez les États ou les villes.
Ça fait partie également de l'écosystème. L'écosystème est beaucoup plus vaste. Il faut créer un écosystème où une entreprise, elle a parlé d'information. Il faut de l'information, il faut de la formation.
Par quoi commencer s'il y avait deux, trois mesures emblématiques, importantes à prendre pour changer la donne pour les PME?
Écoutez, je pense qu'il faut de l'information, comme elle a dit, c'est important. Elle a parlé de réseautage, mais c'est plutôt du coaching en réalité. Je crois qu'il faut créer un système de coaching où les entreprises déjà établies, déjà aguerries, coachent les nouvelles entreprises, les start-up, les PME, ainsi de suite. Le partage d'expérience d'une grande entreprise ou une entreprise aguerrie avec une PME, ça n'a pas de prix. On a toujours l'impression qu'on focalise sur le financement. Mais quand vous créez une entreprise, ce n'est pas pour être financé. Vous créez une entreprise pour créer un produit ou un service que vous allez vendre. C'est ça votre meilleur financement, votre marché. Mais il faut qu'on vous donne les capacités de justement pouvoir répondre à votre promesse.
C'est ça la mesure que vous prendriez si vous étiez président de la Côte d'Ivoire?
Non, je conseillerais à ceux qui sont là, dont c'est la responsabilité de le faire.
Eh bien justement, Tidiane Thiam, qui est revenu il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, qui n'a pas totalement caché ses ambitions politiques pour 2025, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un bon profil? Quelqu'un venu de la finance? Quelqu'un venu du monde de l'économie? Quelqu'un qui a aussi une expérience politique, expérience internationale?
J'ai beaucoup de respect pour Tidiane Thiam parce que je pense que c'est un brillant personnage et une très bonne personne. Aujourd'hui, au-delà de la technicité, les gens ont besoin du renouveau dans les pays africains. Ils ont besoin d'un nouveau dynamisme. S'ils pensent pouvoir apporter ce dynamisme, je pense qu'ils le pensent certainement. C'est pourquoi il a ces ambitions-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout la logique de nouveau dynamisme, de nouveau souffle en réalité, si vous voulez. Parce que je crois que la jeunesse africaine a l'impression que c'est les mêmes qui sont en train de
il faut sauter deux, trois générations.
Non, sauf que malheureusement, pendant longtemps, ça a été une seule façon de voir les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait beaucoup plus de compétition. Il faut que ce soit beaucoup plus ouvert et que les gens choisissent. Mais il faut que ce soit beaucoup plus ouvert. Il ne faudrait pas qu'on reste dans une logique de pensée unique.
Les partis ont trop d'importance dans le choix des candidats?
Non, en réalité, si vous voulez, je crois que même dans les partis, malheureusement, il n'y a pas de débat.
Au PDCI actuellement.
Je crois que partout, d'ailleurs, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, et ce n'est pas ouvert. Alors que Pour moi, ça ne menace personne d'avoir des discussions et des débats. Ça menace personne, au contraire. Ça crée un environnement où vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'échanges, et forcément, ça permet d'aller de l'avant. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est aussi rigide, mais je crois que les choses devraient évoluer.
Il reste 3-4 petites minutes, Julien Clémenceau.
Vous l'avez dit en préparant l'émission, vous l'avez redit là, vous n'avez pas pour intention de faire de la politique. Pourtant, vous êtes sensible à votre image et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous avez donc publié cet ouvrage, L'homme aux chaussettes rouges, un ouvrage autobiographique qui retrace votre parcours. Pour quelle raison vous avez fait ça?
Alors,
qui ça s'adresse?
Aux jeunes Africains. Aux jeunes Africains qui me suivent énormément à travers le monde et je pensais que c'était quelque chose que je leur devais. Parce que je pense qu'ils me connaissent de façon superficielle, du moins ils me connaissaient de façon superficielle avant ce livre. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui me révèle. Et là, j'étais moi-même surpris de ce que j'ai écrit, parce que je me suis vraiment révélé. Et je pense que je leur devais ça. Ils ont besoin de références, ils ont besoin de guides.
Vous qui avez l'habitude de noter les autres, là, en narrant votre histoire, vous distribuez quand même un 20 sur 20. Est-ce que le capitalisme africain, pour se construire, a besoin de ce type de storytelling?
Je pense, oui.
Américains savent le faire.
Oui, je pense que c'est extrêmement important. Il faudrait qu'on vende aux jeunes Africains le rêve africain, pas le rêve américain, le rêve africain. Et je crois que j'incarne ce rêve-là pour beaucoup de jeunes. Et donc, pour moi, c'était important de leur raconter l'histoire. Pas juste des bris d'informations comme ça sur Internet, mais leur raconter l'histoire. Ça a commencé où? Et ça, c'est magnifique.
Dans ce livre, vous donnez aussi la parole à des gens qui vous connaissent, qui vous aiment, qui sont vos proches. On apprend que Didier Drogba, l'ancien footballeur, est votre cousin. Est-ce que vous avez participé à sa campagne, malheureuse, au final, pour conquérir la Fédération ivoirienne de football? Vous l'avez soutenu? Vous êtes déçu de son échec?
Je l'ai soutenu ardemment, d'ailleurs, et parce que je pense toujours que son projet était un projet excellent. Et je crois que cette élection a bien montré que peut-être qu'il faut peut-être revoir la gouvernance de ces institutions-là. C'est vrai que les populations ne votent pas, mais ce serait bien de revoir la gouvernance de sorte à ce que ces systèmes-là ne soient pas des systèmes complètement fermés, verrouillés.
Comme la politique nationale.
Malheureusement, et il faut que ce soit déverrouillé, il faut que ce soit beaucoup plus ouvert. Parce que ça ne fait pas avancer. La pensée unique ne fait pas avancer. Elle n'a jamais fait avancer nulle part, d'ailleurs. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs partis politiques. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'avoir la possibilité, justement, de pouvoir discuter, de pouvoir débattre. Parce que pour moi, c'est ça, la politique. Ce sacrifice qu'on a envie de faire pour les autres. On ne peut pas dire qu'on veut faire le sacrifice pour les autres et on ne veut pas les entendre. C'est paradoxal.
Même si la Côte d'Ivoire n'y sera pas, est-ce que vous suivrez la Coupe du Monde au Qatar dans les conditions que l'on connaît, avec les polémiques qui sont autour?
En réalité, je ne suis pas un grand fan de football. Hein. J'ai commencé à regarder le football parce que mon cousin jouait, Didier, pendant qu'il jouait.
Maintenant, vous avez regardé un bon moment, alors, parce qu'il a joué
longtemps. Justement, maintenant, ça ne m'intéresse plus vraiment. Moi, c'est vraiment le basket, le football américain. Et d'ailleurs,
la NBA va recommencer.
Mes amis se moquent de moi quand je veux m'adonner au football. Ils me disent attention, ils risquent de prendre ça avec la main.
en deux secondes, est-ce qu'on peut boycotter, est-ce qu'il faut boycotter un événement pour des raisons politiques, environnementales, de droits humains?
Non, je pense qu'il faut séparer les choses. Ça peut être une façon, on peut exprimer son désaccord sans pour autant remettre en question l'idée de jeu. Sinon, finalement, ça ne devient pas un jeu, finalement, ça devient des outils politiques. Il ne faudrait pas que tout soit des outils politiques. Il faudrait qu'on puisse profiter des choses pour ce qu'elles sont, hein, tout en revendiquant. Mais on peut toujours profiter, pour moi. Faut pas faire des amalgames.
Merci à vous.
Merci infiniment.
Stanislas Zézé, merci d'avoir été le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Émission à retrouver en vidéo et en intégralité sur YouTube, sur les chaînes de RFI et de Jeune Afrique. Les meilleurs extraits à l'écrit sur le site de Jeune Afrique. Merci à vous, Julien Clémenceau.
Merci, Bruno.
Nous prolongeons la discussion sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés. Mathieu Leroy, Laurie Plisson, Guillaume Munier et Codici Eco d'ailleurs. Revient samedi prochain sur RFI et sur RFI.fr. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.